Bonjour à tous, à toutes ainsi qu'aux autres et bienvenue dans cet épisode de Un air de déjà-vu, hors-série dédié aux mèmes musicaux. Aujourd'hui c'est un épisode doublement spécial car non seulement il s'agit, comme je l'ai dit, d'un hors-série, mais en plus nous avons un invité pour co-animer avec moi cette émission. Il s'agit du créateur de contenu Mad Dog qui anime les émissions La Chronique Facile et La Minute Mème. Il est aussi l'auteur d'un livre sur le sujet, bref, vous l'avez compris, même si vous ne connaissez rien au mème, nous avons avec nous un guide parfait pour nous éclairer sur la culture web, avec ses références parfois obscures, voire absurdes, de ce pan de l'art dérivatif. Car oui, le mème, c'est encore une forme d'art dérivatif. C'était donc complètement logique d'y consacrer un jour un épisode dans Un air de déjà-vu, puisque justement, le détournement d'œuvres est au centre de ce podcast. Ce sera donc pour une fois une émission avec beaucoup d'explications, écrite à l'avance, donc soyez un peu plus attentifs ou attentifs que d'habitude pour ne pas perdre le fil, ni le Mad Dog. Tiens bah justement, bonjour Mad Dog, bienvenue à vous et merci d'avoir répondu à l'invitation.
Non, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité dans ton podcast. Bonjour aux auditeurs et auditrices, moi c'est Mad Dog, je me présente rapidement, je suis blogueur et youtubeur et une de mes marottes c'est les mèmes internet. J'ai tenu un blog sur les mèmes intitulé La Chronique Facile du Mercredi où je parlais d'un mème tous les mercredis qui s'est transformé en une série de vidéos nommée La Chronique Facile tout court parce que j'avais la flemme d'en faire une tous les mercredis. À côté de ça, j'ai fait des conférences sur les mèmes internet dans des conventions et j'ai écrit des petits guides sur les mèmes internet et des petits romans aussi que je vends sur mon blog lachroniquefacile.fr. Ouais, on n'est pas très étonné du titre.
J'ai une question pour commencer, poser les bases pour nos auditeurs les moins connectés. C'est quoi un mème ? En quoi cela va différer des reprises musicales auxquelles ils sont habitués ? Et pourquoi ça s'appelle un mème ?
Vaste question. À la base, les mèmes, c'est une idée tirée d'un généticien, Richard Dawkins, qui avait théorisé que les idées, comme les gènes, pouvaient évoluer en se mélangeant. Internet a repris le concept à la fin des années 90, et le terme s'est popularisé dans les années 2000 pour désigner tout ce qui est culture virale. Cela désigne souvent un concept, qu'il soit par image, vidéo, ou dans le cas précis, de la musique, qui a été partagé et que les internautes se sont réappropriés en les changeant et en les diffusant à leur tour. Si on voulait être très généraliste, on pourrait dire que toute reprise d'une chanson connue est un mème en soi. Mais histoire d'être cadré, on parle de mème quand ça crée une forme d'engouement et de mode sur Internet.
Merci pour toutes ces précisions. Maintenant que tout le monde est à peu près à jour sur le principe général de ce que nous allons présenter aujourd'hui, je propose de passer au premier morceau de cette émission, l'ambassadeur du mème lui-même, Edouard Anatolievich Kiel. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son morceau live de 1976 est presque l'un des hymnes de l'Internet. Et pourtant, peu connaissent le nom de cette musique et son histoire.
En effet, le morceau à la base est une chanson russe dont le nom pourrait se traduire par « Je suis très heureux d'être enfin revenu à la maison ». Et c'est une sorte de vocalise très joyeuse chantée par le baryton Edvard Kiel avec des « ho 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 » et des « ha ha » qui ponctuent la chanson. Elle n'a pas besoin de traduction et c'est pour ça que lorsque des internautes américains l'ont exhumée pour la diffuser sur internet en 2010, elle va beaucoup être partagée. Parce que le visage de Kiel, il est très expressif et limite halluciné. Et ça fait marrer tout le monde. Et très vite, des petits malins vont se servir de la vidéo pour troller les gens cliquant sur un lien et tombant sur cette chanson où cet homme semble se moquer d'eux pendant 5 minutes. Ce qui donnera à Kiel son surnom de Monsieur Trollolo, puisqu'il les troll en faisant lololo.
Qui serait le plus à même de rendre hommage à Monsieur Trollolo et la légende qu'est ce titre, si ce n'est Scott Bradley, un artiste assez régulier dans l'émission qui nous fait ici une version au piano très vintage, façon pianiste jazzy de grand restaurant, avec beaucoup de variations autour de la mélodie emblématique, afin qu'on s'en lasse pas trop vite.
Thank you.
Décidément, on peut toujours compter sur Scott Bradley pour nous pondre des covers absolument magnifiques. Félicitations et merci à lui pour nous avoir délecté ainsi les oreilles. Je vous rappelle que si ce n'est déjà fait, vous pouvez foncer écouter ses reprises sur sa chaîne et celle de son post-moderne Jukebox, qui est rempli de ce genre de reprises vintage absolument parfaites. Pour le titre suivant, autant la musique originale date un peu, autant sa résurgence en tant que mème est bien plus récente que vous ne le pensez. Pour la majorité d'entre vous, la batterie des deux premières secondes suffit à identifier le titre. Si le président de l'internet est le Trololo, alors le premier ministre serait probablement Rick Astley. Mais alors, quel est le délire avec cette chanson de 1987, dont le thème, si on écoute les paroles, est quelqu'un qui veut séduire une personne en lui disant qu'il fera tout pour elle, rien de bien novateur.
En vrai, la blague consistant à faire cliquer des gens sur un faux lien, en leur promettant une chose qu'ils espèrent, elle est vieille comme internet. C'est même la base des arnaques et du phishing. Et au début d'internet, on n'avait pas de site vidéo pour piéger les gens, donc on les envoyait vers des photos. Parfois c'était du cul, parfois c'était du gore, ou parfois c'était juste très moqueur. Et pendant des années, une blague consistait à renvoyer les gens vers la photo d'un canard avec des roulettes, ce qui était surnommé le duck roll. Ainsi, en 2008, quand un internaute sur 4chan a fait croire aux gens qu'ils allaient voir le trailer de GTA 4 et qu'ils sont tombés sur Never Gonna Give You Up de Rick Astley, bah la manœuvre a pris le surnom de Rickroll. Et la chanson est devenue populaire pour ça, il faut dire qu'elle s'y prête bien, avec ses paroles qui disent « Je ne te laisserai pas tomber, je ne te trahirai pas », ce qui donne tout un sel ironique. Pour le coup, ça a permis à toute la génération des internautes des années 2000 de connaître Rick Astley, ce chanteur d'un One Hit Wonder dans les années 80 qui avait tout juste 21 ans. Et ça l'a amené à faire un revival de sa carrière, au point qu'il a sorti une chanson l'an dernier qui s'appelle Never Gonna Stop.
Merci, c'est bien plus clair et effectivement c'est un mème très établi mais qui finalement est bien plus récent qu'on l'imagine. Mais c'est probablement à cause de la reprise de ce titre par les 2B3 en 1997 qu'on la situe plus tôt dans notre vie. Never gonna give you up, never gonna let you down. Je serai là pour toi ma baby. Je vais te voir pleurer, ne plus t'en aller. Je serai là pour toi ma baby.
Ouais, alors pour le coup, diffuser du 2B3 en 2024, je trouve que ça tient limite du troll.
De toutes les reprises de ce titre très populaire, finalement, celle que j'ai retenue est peut-être la plus subtile dans son approche dérivative et la plus satisfaisante à mes oreilles. La transformation de cette mélodie en un thème d'animé fictif, non seulement en la traduisant en japonais, mais aussi en utilisant l'instrumentation caractéristique. C'est un vrai régal, ça fait autant sourire, non seulement parce que ça parodie les génériques en un sens, mais aussi parce que c'est très agréable à écouter.
We've known each other for so long.
c'était le groupe Ty McGrath qui ont réalisé cette petite pépite. Avant que l'on passe à la suite de l'émission, je suis bien évidemment tombé sur un mash-up qu'il fallait absolument que je vous fasse écouter, qui réunit justement ces deux titres qui sont représentants de la culture internet. C'est parti pour le mash-up. On doit ce mash-up plein d'épicness à Vids for Fark. Le titre suivant est bien plus vieux que je l'imaginais initialement. Genre de beaucoup. Non, mais plus encore que ce que vous imaginez. La majorité d'entre vous ont peut-être découvert cette ère devenue grand public en 2006 avec Holly Dolly et sa Dolly Song. Mais en réalité, la popularité de cette polka vient d'Internet, une sombre histoire de Poirot qui n'en est pas un et qui tire ses origines de loin. Mad Dog, vous pouvez m'aider à mettre un peu d'ordre dans tout ça, s'il vous plaît ?
Oui, l'origine de cette chanson est très lointaine, puisqu'on a retrouvé sa mélodie au XVIIIe siècle dans la province de Vilipuri en Suède, et qu'il est possible qu'elle soit même encore plus vieille que ça. De plus, de nombreux peuples revendiquent sa paternité, entre les Finlandais, les Russes ou les Suédois. Tout ce qu'on sait, c'est que dans les années 20, un Finnois du nom d'Aino Keitunen y ajoute des paroles et nomme cette chanson du nom de Yevan Polka, ce qui signifie Polka d'Ève. La chanson, qui parle d'une jeune fille qui s'appelle Ève, va connaître de nombreuses reprises jusqu'en 1995, où un groupe de chanteurs a cappella nommé Luotuma l'ajoute à son répertoire. L'histoire aurait pu s'arrêter là si Internet n'était pas passé par là. En effet, en mai 2006, un petit malin s'amuse à rajouter quelques vocalises de Luotuma sur une séquence tirée de l'anime Bleach, où la jeune Orihime, avec une mine ravie, s'amuse à faire tourner une ciboule, un légume japonais qui ressemble vaguement à un poireau. L'animation idiote fait le tour du monde, amuse les internautes qui se la refilent et en font des parodies. Après tout, c'est plus facile de faire circuler une musique à travers le monde quand elle est juste composée d'onomatopées. Or, on est en pleine période Crazy Frog où des sociétés puissent dans les mêmes internets pour faire des mascottes qui vendent des sonneries de téléphone. D'où l'invention de l'affreuse Dolly qui reprenait les bibapo de Yevan Polka. Peu de temps après, une animation où la célèbre chanteuse vocaloid Hatsune Miku chantant poireau à la main a été diffusée et beaucoup d'internautes ont cru qu'elle était à l'origine de ce mème.
Et apparemment, elle fait son retour avec TikTok, c'est ça?
Oui, là encore, c'est deux mèmes de 2020 qui se croisent. Le premier, c'est le Vibing Cat, la vidéo d'une femelle chat qui bouge la tête sur de la musique, qui a été détournée par les internautes afin de la faire danser sur n'importe quel type de musique piochée sur TikTok de préférence. Or, l'animation du petit chat fusionnait assez bien avec la vidéo d'un musicien turc aveugle, Bilal Gorengen, reprenant le célèbre air au tambour, faisant à nouveau marrer les internautes et ramenant l'air entêtant de Luatuma à la mode.
C'est une histoire en fait assez impressionnante qu'un thème musical venant du fond des âges soit encore aujourd'hui si connu, revienne régulièrement sur le devant de la scène. Et c'est pour ça qu'elle mérite d'être rendue épique. Oui, on va s'écouter une reprise épique orchestrale de cette polka, dans un style un peu heroic fantasy, du plus bel effet. On doit cette reprise très impressionnante à Mattia Raffaele Migaldi, qui n'a que 3 reprises sur sa chaîne, dont celle-ci est une reprise de Zombie des Cranberries, qui est dans mes favoris désormais. On parlait de vieilles mélodies, alors permettez-moi de ressortir des cartons la plus vieille mélodie virale que je connaisse. Celle d'une époque où la DSL même 128K était un luxe dont peu de gens disposaient, et où on s'envoyait des PowerPoints avec des animations et du son dedans par mail. Vous avez peut-être déjà la musique en tête, tant elle peut s'accrocher au cerveau comme un parasite suceur de pensée, et si vous ne l'avez pas, permettez-moi de vous la présenter.
A priori, il n'y aurait pas grand-chose à dire sur la Hamster Dance, puisqu'il s'agit en fait juste de l'intro de la chanson Whistle Stop de Roger Miller, qu'on aurait accéléré. Chanson que vous connaissez parce qu'elle est l'introduction du Robin des Bois de Disney de 1973. Mais là où c'est intéressant, c'est lorsque cette phrase musicale va nous renvoyer aux âges sombres d'Internet. Cela démarre en 1998 lorsqu'une étudiante canadienne, Deirdre Lacarte, ouvre une page Geocities afin de tenir un pari qu'elle a fait avec des copains. Faire le site Internet qui va faire le plus de vues. Celle-ci nomme la page sous le nom de son hamster, Hampton, et la blinde de gifs animés de lui en train de danser. Et du coup, en guise de musique, elle ajoute les 10 secondes de loop de la chanson du coq en accéléré. Comme c'est la danse de Hampton le hamster, elle résume cela en hamster dance avec un beau P au milieu qui apparaît comme une faute de typo malvenue. Le pire, c'est qu'à la base, Deirdre avait perdu son pari, hein, puisque la page totalisait moins de 4 visites par jour. Et puis, d'un seul coup, en avril 1999, la page se met à cartonner comme c'est pas permis avec des pics de 60 000 vues par jour. Le sample de Hampton sera même repris par un affreux groupe techno nommé The Cuban Boy pour leur tube Cognoscenti vs Intelligentsia. À l'époque, si tu trouvais un truc sur internet, bah tu pouvais considérer qu'il était à toi. Ce ne furent pas les seuls, puisqu'en juin 2000, on eut droit à la sortie d'un nouveau remix de la danse de Hampton par le groupe The Boomtang Boy avec l'accord de Deirdre Lacarte pour le coup, et se nommant The Hamster Dance Song, avec le P au milieu qui sonne bien plus authentique.
Eh bien, ce que je propose, c'est que on fasse l'inverse. On va ralentir le rythme, mais pour la transformer en musique remplie d'émotions, au piano seul, dans un style qui ne dénoterait pas dans un mariage. On reste dans les animaux cartoons de l'internet avec un chat, entre deux tranches de ce qui ressemble à des toasts. Certains savent déjà de quoi je parle, et si je rajoute qu'il pète un arc-en-ciel, je pense que tout le monde a compris. Pour les autres, peut-être que la musique pourra vous aider. Mad Dog, c'est quoi l'histoire de ce chat et pourquoi le nom de Nyan Cat et comment c'est devenu aussi connu ?
Là encore, cela naît de la rencontre entre deux éléments que tout oppose. Le premier, c'est un dessinateur texan du nom de Christophe Torres qui décide, en avril 2011, de faire un gif façon pixel art dans lequel son chat serait en train de voyager dans l'espace. Pour rajouter au délire, son corps était remplacé par une Pop-Tart, un biscuit pétillant connu aux USA, et le voyage du chat était suivi par un arc-en-ciel. La seconde, c'est un morceau d'Hatsune Miku, eh oui, encore elle, nommé Nyan 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 Nyan, et qui traînait sur Nico Douga, le YouTube japonais depuis 2010. Dans ce morceau, cette chère Hatsune ne trouve rien de mieux que de faire l'onomatopée japonaise qui est l'équivalent de notre miaou, mais cette fois-ci en boucle. La musique a été reprise avec une autre vocaloïde nommée Momone Momo, et c'est celle-ci qui va être mise sur l'image du petit chat qui voyage dans l'espace. Et ça va donc donner ce qu'on appelle le Nyan Cat. Bon, ça signifie le chat miaou, ce qui est un peu idiot, mais ça reste le même le plus célèbre de 2011, voire même de tout l'internet. Internet mondial, tant la boucle du gif de petit chat dans l'espace se marie à l'infini avec la boucle de Momo qui miaule. On en fit des geoflages, des parodies et tout un tas de détournements.
Alors celles qui l'ont entendu et surentendu savent à quel point cela peut devenir répétitif, mais je suis arrivé à vous dégoter une petite reprise qui le rend vraiment agréable, même si vous avez été dégoûté de l'air entêtant. Des petites variations sur un piano pour une reprise façon smooth jazz. C'était une reprise de Saw Strat 2. Alors que nous terminons cet enchaînement d'animaux, et avant de passer à la suite, j'en profite pour vous rappeler que tout ce que vous entendez dans cet épisode est disponible en lien dans la description, ainsi que les playlists YouTube et YouTube Music. J'ai aussi rajouté les émissions de Mad Dog en rapport avec les mêmes qui sont dans la playlist, si vous voulez en savoir encore plus. Pour la suite, si vous connaissez l'émission depuis un moment, vous savez à quel point j'aime le saxophone. Alors vous n'allez pas y couper, on va parler de Epic Sax Guy. Alors, originellement, c'est une musique qui vient de l'Eurovision. Ça a terminé avec Gandalf qui bouge la tête. Mad Dog, c'est quoi ce délire avec ce saxophoniste ?
Le saxophoniste en question a pour nom Sergei Stepanov et il est moldave. Et c'est en représentant fièrement son pays à l'Eurovision avec le groupe Sunstroke Project qu'il se fait remarquer. Il faut dire que le groupe avait mis les potards à fond pour être over the top puisqu'ils commencent leur morceau Runaway avec un type qui joue du violon avec un archet lumineux sur une plaque tournante. Mais c'est surtout le passage au saxo que les internautes vont retenir. C'est un petit pont très court de quelques notes qui revient plusieurs fois au cours du morceau, mais il est joué par un Stepanov avec des grosses lunettes et une coupe en brosse qui le fait ressembler à Duke Nukem, et surtout un déhanché décomplexé qui a rendu ce moment culte et créé le même. Si le morceau finira à la troisième place ce jour-là, Stepanov rentrera dans la légende en gagnant le surnom d'Epix Sax Guy, alias le joueur de saxo Epic.
Alors je vous rassure, on ne va pas diffuser une boucle de 3 minutes avec les quelques notes qui font partie du même. Non, je vous rassure, à la place, on va écouter deux covers courtes. La première, elle est toute simple, mais justement, en ce sens, elle est parfaite. Une petite boîte à rythme, à peine plus compliquée qu'un métronome, et un ukulélé, joué par Garas Funk, qui a l'air de bien se marrer. Cette seconde cover de Epic Sax Guy est épique. Oui, c'est possible de faire encore plus épique que le Epic Sax Guy. C'est un musicien, It's a Money, qui décide de recomposer la phrase musicale pour cette fois-ci la jouer au violon. On va l'entendre d'abord préparer le fond qui l'accompagnera, avant d'entendre le résultat final qui est juste superbe. Même suivant, nous étions obligés de le faire dans un air de déjà vu, car il s'agit justement du titre. Créé par Dave Rogers, ce titre Eurodance est sorti en 1999 et il a connu une résurgence en 2020 via les mèmes et notamment les trends TikTok avec des vidéos de dérapage. Ce qui n'a absolument aucun rapport avec les paroles qui parlent littéralement d'un effet de déjà vu. Mais du coup, pourquoi ?
Il faut savoir qu'il n'y a pas que les Européens qui aiment l'Eurobeat, mais aussi les Japonais. Aussi, le morceau déjà vu va se retrouver dans une séquence du 13e épisode de l'anime Initial D Second Stage. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Initial D, c'est une série de courses de voitures très très carrées, conduites par des personnages à la mâchoire tout aussi carrée. Néanmoins, l'anime devient culte et sa musique très techno-boom-boom va le devenir aussi avec le temps, investissant les karaokés d'otaku, mais servant aussi en 2016 d'illustration sonore ironique pour des vidéos de voitures, de camions ou de tanks en train de faire des drifts, le plus souvent suite à des dérapages sur la glace. Le titre redevient populaire à cet instant et continue de le rester.
Vous parliez de techno boom boom et justement je trouve que ce titre a des paroles superbes mais qui sont masquées par l'eurodance sous plein de couches musicales et en rythme rapide. Alors ce que je vous propose c'est de la redécouvrir, chantée doucement par une femme accompagnée de sa guitare.
Searches and mystery. travel, I've just been in this place before.
C'était Vinomnom qui nous a bercés avec cette superbe version acoustique. Passons à un mème qui entoure la mort, oui, mais de manière joyeuse. Oui, oui, voire même dansante. Si vous ne connaissez pas et que vous écoutez cette musique... On est d'accord que c'est pas une musique d'enterrement. Et pourtant, désormais, cette musique est synonyme d'une mort imminente dans la culture internet. Comme l'est toujours le fait de suivre un camion de rondins en bois sur la route, les meilleurs auront la référence. Mais Mad Dog, dites-moi, pourquoi cette histoire de porteur de cercueil? Pourquoi il danse? Pourquoi cette musique?
Et pour bien comprendre ce mème, il va falloir que je vous parle du sujet bien joyeux des funérailles en Afrique. En effet, depuis une décennie, quelques compagnies de croque-morts du Ghana ont créé un service de dancing pallbearers, des porteurs de cercueils dansants qui exécutent des pas de danse tout en effectuant leur service. Le but de la manœuvre étant de montrer l'opulence de la famille du mort, prête à dépenser pas mal d'argent pour offrir un spectacle aux gens présents à l'enterrement. Cette curiosité fut filmée par la BBC en 2017 et tomba sous l'œil d'internautes narquois qui montèrent alors la vidéo des porteurs de cercueils dansants après des images de gens en train d'avoir un accident spectaculaire. Cela devint une mode sur le TikTok de 2020, d'autant plus qu'elle s'est très vite accompagnée d'un extrait de la musique techno d'Astronomia de Tony Iggy et Winston, au point qu'il suffit maintenant d'entendre les quelques sonorités de la musique pour penser immédiatement au croque-mort du Ghana. De plus, l'arrivée du Covid-19 et de son cortège de nouvelles funèbres augmenta furieusement la popularité du même et de son humour noir. Cela a d'ailleurs permis de faire connaître à travers le monde ce service mortuaire qui existe depuis environ 2003 et de le faire passer pour une tradition.
Et bien justement, quitte à parler de tradition qui n'en est pas une, on va justement partir sur une musique au faux air traditionnel, une cover folk et metal. J'ai un peu l'impression d'une musique irlandaise, un peu heroic fantasy. Vous me direz. Franchement, je suis presque preneur pour cette musique à mon enterrement, pour le coup, je pense qu'elle est vraiment belle, et en plus, ça ferait marrer les 2-3 personnes qui connaissent, dont vous, maintenant. Pour terminer sur une note plus positive, on va revenir sur un animal qui danse. Plus précisément, un dragon. Et plus précisément encore, croque-mou, en anglais Toothless, le dragon noir de la série de films Dragon, mais dessiné de manière un peu simplifiée. Il était très populaire en début d'année 2024, donc c'est plutôt récent par rapport aux autres mèmes de cette sélection. Mad Dog, au secours, Pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait encore les gens? Pourquoi j'ai des dragons qui dansent partout dans mon TikTok?
Eh bien, c'est à cause du port Yonev, ou Drift Vale City, une zone du jeu vidéo Pokémon noir et blanc qui avait une musique bien trop funky pour ne pas être récupérée. En 2018 apparaît alors sur YouTube une animation d'un petit lézard en 3D qui danse sur ce morceau. Le lézard a fait sa vie, gagnant une relative popularité. Quelques années plus tard, lorsque le YouTuber Cass Van de Poel décide de faire une parodie de l'animé Dragon, nommé How to Train Your Dragon to Boogie, il convoque le même et fait danser Croque-Mou sur la musique de Drift Vale City, puisqu'après tout, un dragon, ben c'est juste un gros lézard. Et cela met la lumière sur ce mème et sur cette musique qui est alors attribuée dans l'inconscient collectif au gentil petit dragon noir de DreamWorks. Cela n'empêchera pas les internautes de détourner la danse stupide de Croque-Mou et de la juxtaposer sur n'importe quel morceau.
Alors nous, on va se concentrer sur la musique, donc celle de Pokémon au final, et je vous ai déniché une version au basson. C'est de la même famille que le hautbois, mais plus grave. Cet instrument sur cette musique me plaît beaucoup, et elle me fait beaucoup penser à Pierre et le Loup. Et en même temps, c'est normal, le grand-père était personnifié par le basson. Alors écoutons ce que donne la musique de Drift Vale City avec cet instrument. Ce sera court, on va pas s'écouter une boucle d'une heure, même si c'est pas l'envie qui manque. C'était VSM Bassoon qui nous a fait voyager finalement de manière presque plus convaincante que la musique originale dans cette ville portuaire de la région d'Unis, dans laquelle se déroule donc Pokémon Noir et Blanc. Nous allons terminer cette émission par un mashup parce que je sais très bien qu'il y a tellement de mèmes musicaux que je n'ai pas traités dans cet épisode, qui n'avaient de toute façon pas vocation à être exhaustifs, ce sera donc l'occasion de les citer, en quelque sorte. Avant qu'on ne se quitte, je voudrais remercier Mad Dog pour sa participation, vous retrouverez tous les liens pour le suivre et notamment le lien vers sa chaîne YouTube que je vous surconseille. Ses analyses de la culture du net sont un régal à suivre, que ça soit un mème en particulier ou que ce soit ses rétrospectives des mèmes d'une année particulière. Bref, jetez-vous dessus si vous ne connaissez pas, je vous envie presque un peu. Cherchez Mad Dog Meme sur YouTube, ce sera le premier résultat, ou passez par les liens en description.
Cherchez aussi Chronique Facile, hein, c'est le nom de mon ancienne émission. Ça vous évitera de tomber sur un DJ espagnol qui a exactement le même pseudonyme que moi.
De notre côté, je rappelle que tous les titres sont disponibles dans la description et tout en bas, il y a les playlists YouTube et YouTube Musique avec les vidéos de Mad Dog en lien avec cette émission, qui sont aussi disponibles dans la playlist YouTube. On a vraiment survolé chacun des mèmes abordés ici, alors allez les regarder pour en savoir plus. Les liens utiles au podcast sont toujours sur ascendemer.com. Si vous voulez nous contacter, pareil, allez sur ascendemer.com, vous retrouverez tous les liens de tous les réseaux sociaux que nous utilisons. Ce mashup que nous allons écouter réunit 40 mèmes en une seule chanson, mais date de 12 ans déjà, donc n'attendez pas la dernière trend TikTok. Je vous conseille de regarder aussi le clip à l'occasion, c'est une merveille en termes de capsule temporelle. C'est parti pour le mashup nommé The Internet Medley de The Gag Quartet. Oui, il y a 12 ans, 9gag était au sommet de sa gloire. Bonne écoute, moi en attendant, je vais retourner fureter sur Internet. C'était Phil, à plus.
Kenavo à toutes et à tous. We'll be right back.
Thank you.